Pauline Pucciano, La Cité d'Albâtre, chapitre 8, Le rendez-vous. Aélénor se trouvait seule, à plusieurs centaines de mètres à la ronde, au cœur du quartier Est. Toutes les bâtisses et les rues alentour étaient désertées, mortes, grouillantes de chafouin comme une carcasse grouillante de verre. Mais elle avait reconstitué un halo de propreté et de lumière, une illusion de foyer, dans lequel elle se sentait presque en sécurité. Ses nuits étaient encore inquiètes, car elle sursautait au moindre bruit. Mais plus le temps passait, plus elle mesurait l'étendue du silence qui l'enveloppait. Personne ne s'aventurait plus dans ces rues fantômes, depuis plusieurs mois au moins. Leur géographie s'effaçait doucement des mémoires et des conversations. Le quartier Est n'était plus qu'une béance indifférenciée à l'intérieur de la ville basse, un lieu vague que l'on contournait sans même y réfléchir. Elle avait installé au premier étage de sa maison tout ce qui lui restait de la haute ville. Quelques livres, ses vêtements, son peigne, sa boule d'hypnose, des esquisses qu'elle avait faites de ses lieux préférés. Elle ôta l'anneau de lien de son doigt et le tourna dans tous les sens. Le motif était fin, les entrelacs complexes lui rappelaient déjà vaguement la subtile tournure d'esprit de Stelle. Elle n'avait jamais contacté personne de cette manière, et ne savait pas si elle allait y parvenir. Elle inspira profondément et changea presque instantanément d'état de conscience. Utiliser l'esprit avait toujours été facile pour elle. Il lui semblait que le basculement d'un état de conscience à l'autre lui était aussi naturel que de changer la position de son corps. Dans le faible miroitement bleu de sa pierre frontale, elle observa de nouveau l'anneau. Ses motifs maintenant lui parlaient davantage. Il devenait étrangement évocateur. Des bribes de conversation, des inflexions de voix, des expressions de Stelle affluèrent à son esprit. Puis, presque insensiblement, elle perçut sa présence lointaine. L'image que son esprit forma était frappante. Stelle était amputée, sans qu'elle sût très bien de quoi, et parlait sans qu'aucun son ne sortît de sa bouche. Elle ne céda pas à l'inquiétude, car elle se savait immergée dans un espace symbolique qu'il n'était pas l'heure de déchiffrer. Elle se concentra sur l'enseigne de la frontière, flottant au vent, au bord du canal frontière. Elle se concentra sur cette image jusqu'à en retracer par l'esprit les moindres détails de texture et de perspective. Ce travail d'imagination lui prit beaucoup de temps et la laissa épuisée. Déjà, la présence se faisait plus lointaine et l'image de Stelle s'estompait. Elle reprit conscience doucement, les doigts blanchis d'avoir serré l'anneau, et le remit distraitement à son doigt. Au même moment, Stelle s'arrêta de déchiffrer la partition qui reposait devant lui. Il avait brusquement pensé à Eleanor. Il l'avait imaginée subitement, seule et minuscule, au milieu d'un grand désert. Puis une image s'était imposée à son esprit, tandis que sa pierre frontale émettait une très faible lueur. L'image, au départ, était très floue, comme un étendard ou un drapeau dans un paysage couvert d'eau. Puis l'étendue d'eau avait pris la forme très familière du canal frontière et l'étendard s'était mué en une enseigne de ville basse. Un dessin y était apparu, celui de la carte de la cité d'Albâtre, traversée par une ligne rouge. Enfin, des lettres devinrent lisibles, la frontière. Stelle ne douta pas un instant qu'Elénor venait de le contacter par l'anneau et sourit dans sa solitude. Il n'oublierait pas de la féliciter le lendemain. Au matin, Keller vit par sa fenêtre arriver un haut citoyen qui attira son attention. C'était un homme jeune, très blond, avec des cheveux très fins, à la fois tressés et relevés. Il portait une toge couleur lit de vin et arborait un visage fatigué et exalté. L'homme descendit de la barge des gardes pourpres et regarda de tous côtés, comme s'il cherchait quelqu'un. Puis il parut reconnaître l'enseigne de la frontière et commença à s'approcher en souriant dans le vide. Maître Keller, intrigué, donna d'inutiles occupations à ses servantes en cuisine et attendit personnellement l'intrus. Stelle entra dans l'établissement et le fouilla des yeux avant de regarder Keller. « Je peux vous aider ?» dit Keller. « Peut-être ?» dit Stelle d'un ton hésitant. « Vous cherchez quelqu'un ? Il n'y a personne. » Stelle esquissa un sourire embarrassé. Je ne sais comment vous dire. Je cherche une amie. Elle m'a dit de venir ici. Je suis aubergiste, monsieur, pas messager. Je vous sers quelque chose ? Stella s'excusa. Bien sûr. Donnez-moi une infusion. Keller tourna les talons de mauvaise grâce et revint avec un certain retard pour servir le haut citoyen. Mais, contrairement à beaucoup de ses semblables, il ne parut pas en prendre ombrage et le paya sans broncher. Quel genre d'ami cherchez-vous ? Demanda-t-il. Une femme d'ici ou une femme de chez vous ? Stella eut un rictus attristé. À vrai dire, ni l'un ni l'autre. Keller se raidit. Cet homme cherchait à Eleanor et s'en prétendait l'ami. Cela suffisait à le lui rendre suspect et antipathique. « Qu'est-ce que vous lui voulez ?» demanda Keller abruptement. « Vous parlez bien d'Eleanor ?» demanda Stella à voix basse. « Vous n'avez pas répondu à ma question. Je prends des risques en cherchant à la voir, vous savez. Cela devrait vous suffire comme preuve de mon amitié pour elle. Quand vous a-t-elle dit de venir ici ?» Stella s'impatienta. « Je ne peux pas vous expliquer, cela prendrait trop de temps et vous ne comprendriez pas. Menez-moi jusqu'à elle. » Keller sentit son agacement monter d'un cran. « Donnez-moi une seule bonne raison pour le faire. » Les deux hommes se regardèrent un moment et la pierre frontale de Stella se mit à briller. « Menez-moi jusqu'à elle, » répéta-t-il d'un ton impérieux. Keller eut une bizarre sensation de dédoublement. Il se vit lui-même enfiler sa chape et sortir dans la rue. Il se vit se diriger vers le quartier Est, et pourtant une partie de lui se révoltait contre ses gestes. Dans une grande confusion mentale, il emmena l'inconnu à travers les rues de plus en plus désertes. Le haut citoyen, comme à Eleanor, faisait fuir l'échafaud, et le trajet se fit sans encombre. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison d'à Eleanor, et qu'elle ouvrit la porte, le dédoublement dont il avait été victime cessa d'un seul coup. Pour faire place à l'une des colères les plus sourdes qu'il eût jamais éprouvées. À Eleanor se jeta dans les bras de l'inconnu, sans un regard pour lui, et leur étreinte s'éternisa. Enfin, la jeune fille daigna le regarder. « Ça a marché, » dit-elle. « Keller, je vous présente Stella, mais je suppose que vous vous êtes déjà présentée ?»« Pas précisément, non, » grogna-t-il. « Excusez-moi, monsieur, » dit Stella, « je... »« Taisez-vous, » dit Keller. « Et ne vous fatiguez pas à me présenter des excuses que je suis trop en colère pour accepter. »« Que s'est-il passé ?» demanda à Eleanor. « J'ai été obligée de le contraindre, » dit Stella. « Contraindre ?» répéta Keller hors de lui. « C'est le mot que vous utilisez pour désigner cet asservissement répugnant ? Vous me dégoûtez avec votre vocabulaire fleuri et votre mépris de tout ce que vous considérez comme inférieur. Humain, chafouin, qu'importe, tout ce qui n'a pas de pierre frontale est identique à vos yeux. » « Vous ne méritez pas l'éducation que vous avez reçue !» Stella demeura silencieux, l'air sincèrement navré, et à Eleanor lui adressa une phrase assez froide, en langue noble. « Je vais vous raccompagner, Keller, » dit-elle doucement. Keller fulminait. « Non, merci. Je préfère encore me faire attaquer par des hordes de chafouins. »« Ne soyez pas, » commença Eleanor. « Stupide ?» termina Keller. « Mais si, voyons, je suis stupide, et plus encore que vous ne le croyez. » Il tourna les talons et s'engagea dans la ruelle. À Eleanor essaya de le suivre, mais il la repoussa du bras brutalement et elle le regarda partir. « Cet homme m'a soignée lorsque j'étais malade, » dit à Eleanor en langue noble. « Il m'a aidée. »« Je suis désolée, Eleanor, » dit Stella. « Je sais, » dit-elle. « Viens, ne reste pas là. » Ils s'installèrent inconfortablement sur les sièges dépareillés et rongés de termites qu'à Eleanor avait achetés. Elle lui raconta sa semaine, avec tous les détails qu'elle n'aurait pu partager avec un bas citoyen. Toutes les émotions nouvelles et contradictoires qui l'avaient assaillie et le doute qui commençait à transformer sa personnalité. Stella l'écouta religieusement. Tout en portant un réel intérêt à ce qu'elle disait, il songeait que leur relation avait déjà changé. Il y avait eu cette première irréparable fêlure dans l'amour qu'ils se portaient, ce sacrifice que ni l'un ni l'autre n'avaient pu faire. Eleanor ne pouvait accepter la haute ville et lui ne pouvait y renoncer. Et cette fêlure, il le comprenait aujourd'hui, s'élargirait sans cesse. Déjà, il ne la reconnaissait pas tout à fait dans ses nouveaux vêtements et sa nouvelle coiffure. Déjà, ses idées lui paraissaient plus radicales et plus impénétrables. Il en ressentait un chagrin profond et sans espoir, mais il savait qu'il se raccrocherait à tout ce qui pourrait maintenir entre eux l'illusion de la communication. As-tu des nouvelles pour moi ? Demanda-t-elle enfin. Tu as été le sujet de beaucoup de débats dans les forums. On m'a rapporté aussi que ton frère se serait engagé dans la guilde de l'ombre. Joris ? Tu es sûr ? Stelle hocha la tête. Mais ce n'est pas tout. J'ai reçu la visite d'une femme de ma guilde, une musicienne du nom de Mevel. Elle a pris tout son temps pour en arriver au sujet de sa visite. On m'a vu traîner avec toi aux quatre coins de la ville avant ton départ. Ce n'est pas interdit par le livre des lois, protesta Eleanor. Non, cela ne m'a causé aucun ennui, rassure-toi. Cette personne voulait connaître la nature de nos relations, les raisons profondes de ton départ. J'ai eu le sentiment qu'elle testait aussi mon jugement sur la cité. Eh bien ? Elle m'a parlé à mots couverts d'une sorte de groupe de réflexion dont elle ferait partie, plus ou moins illicite, et de sa sympathie pour la cause des apostats. Eleanor semblait vivement intéressée, beaucoup plus à vrai dire qu'il ne l'avait été lui-même. Pour finir, elle m'a laissé entendre qu'elle souhaitait te rencontrer, elle ainsi que les autres membres de son groupe. Que lui as-tu dit ? J'ai bien entendu nier avoir la moindre opportunité de te contacter. Je ne savais pas ce que tu en penserais. Eleanor réfléchit quelques instants, les yeux dans le vague. As-tu envie de t'engager dans une action comme celle dont elle t'a parlé ? Oui, mentit-il. Elle sourit, soulagée par sa réponse. Alors peut-être pourras-tu en apprendre davantage et me les présenter après ? Quand nous reverrons-nous ? Demanda-t-il. Tu sais que cela ne peut être fréquent ni régulier. La guilde de l'ordre doit te surveiller. Il acquiesça tristement. « Tu me contacteras ?»« Oui, » dit-elle, « par l'anneau. »« Disons, dans une lunaison ?»« D'accord, » dit-elle. « Une lunaison pendant laquelle tu as pour mission d'entrer en résistance. » Il se leva pour prendre congé. Elle le serra contre elle un bref moment, mais leur étreinte fut plus froide que lorsqu'ils s'étaient retrouvés, comme s'ils avaient pris conscience entre-temps de ce qui les séparait à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors qu'ils s'éloignaient, Eleanor pensa à Keller et éprouva le désir urgent de le voir et de lui parler. Comment Stelle avait-il pu le contraindre ? En se demandant avec anxiété s'il accepterait de la recevoir, elle ferma sa porte et pressa le pas vers la frontière. Keller pensait ses griffures, ses morsures et ses égratignures lorsqu'Eleanor frappa à sa porte. Elle utilisait désormais l'escalier de service et se rendait directement au second étage, dans les appartements du maître des lieux. Keller pensait à elle, depuis tout à l'heure, sans parvenir à la chasser de son esprit. Et lorsqu'il entr'ouvrit la porte, torse nu et les mains pleines d'onguents et de sang, il ressentit une émotion bizarre, comme un soulagement mêlé d'angoisse. « Entrez, » dit-il. Elle s'exécuta et observa son corps meurtri à de multiples endroits pendant qu'il continuait à se soigner. « Je vous apprendrai à résister à la contrainte, » dit-elle. Il leva les yeux vers son reflet dans le miroir, surpris. « Stelle n'aurait jamais dû faire usage du verbe. Je ne l'aurais jamais permis si... »« Ne parlons plus de lui, voulez-vous ?»« Il n'est plus mon amant, » ajouta-t-elle précipitamment. Keller ressentit un vif plaisir, mais n'en laissa rien paraître. « Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ?»« Je suis désolée, » dit-elle. « Jamais je... »« N'en parlons plus, » dit-il. Il y eut un silence qui accentuait encore l'intimité de la scène. « Au fait, si vous pouviez m'apprendre aussi à me débarrasser des chafouins... » Ils rirent tous deux. « Et moi, » reprit Keller, « que pourrais-je vous apprendre que vous ne sachiez déjà ?»« Je suis heureuse que vous me posiez cette question. En fait, il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous demander. Des choses comme comment avaler une bouchée de viande sans la rejeter ?»« Entre autres, » dit-elle en souriant à demi, « je voudrais visiter la ville basse et tout connaître d'elle. Je voudrais voir les manufactures, l'intérieur des maisons, la façon dont les gens vivent. Je n'y arriverai pas toute seule. » Keller avait terminé ses soins et essuyait ses mains dans un linge. « Faux ! Vous pouvez aviser n'importe qui dans la rue, faire briller votre pierre frontale et demander tout ce que vous voulez. Vous êtes beaucoup plus puissante que moi. » « Est-ce cela que font les apostats ? » ?»« Pour certains, oui. C'est... pourquoi d'ailleurs les bas citoyens les évitent en général comme la peste ?»« Comment vais-je vivre, Keller ?» demanda-t-elle avec gravité. « Je ne sais pas, vous pouvez tenir les comptes d'un commerçant, prononcer des discours nuptiaux ou funèbres, devenir guérisseuse, exterminatrice de chafouins, professeur. Les gens instruits ne courent pas les rues, vous savez. Connaissez-vous d'autres apostats, Keller ? Un seul, à part vous. Un vieil ami. Ah, Eleanor sourit. Vous êtes plein de surprises. Comment s'appelle-t-il ? Il se trouve qu'il a été votre professeur quand vous aviez 5 ans et qu'il se souvient très bien de vous. 5 ans ? Est-ce Santine ? Galvon ? Kettel ? Kettel, oui. Quelle mémoire ! Eleanor paraissait réjouie et Keller se tourna vers elle. Tout est si inextricablement lié à Eleanor. Vous, lui et moi. Elle eut un sourire étrange, comme si elle acceptait ce qu'il disait sans le comprendre tout à fait. Un sourire qui scella tacitement entre eux un sentiment informulé.